10% des gens sont en vacances dans les semaines de la construction. Donc, c'est quand même beaucoup. Fait que ça fait beaucoup de gens qui se promènent. Il y en a qui travaillent pour aider ou compenser, ouais. Ceux qui sont en vacances, ben, on doit manger quand même. Hein? On doit s'approvisionner. C'est ça. Aussi. Donc, on a besoin des gens qui travaillent aussi. Donc, merci à ceux qui travaillent. Même pendant ces belles journées, hein, on peut profiter. Bien, justement, hier, on a eu un bon temps avec des bikers. On était faire une petite ride. Donc, c'est intéressant. Et le Seigneur béni. Donc, ce matin, bien, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet important dans la foi, qui est de se préoccuper des choses d'en haut. Et c'est toujours aussi bénissant lorsque le Seigneur inspire des chants, des cantiques, puis nous amène dans sa présence pour louer sa grandeur et nous diriger aussi dans le message qu'il a pour nous. Donc, je commencerai avec une question. Est-ce qu'un chrétien, un disciple du Seigneur, peut être pour égoïste au point de se plaindre de la volonté de Dieu pour sa vie? Hein, c'est quelque chose d'assez intense hein, comme question, se questionner là-dessus. Est-ce qu'un chrétien ou un disciple, quelqu'un qui suit le Seigneur, dans le fond, bien peut être égoïste au point de se plaindre de la volonté de Dieu pour sa vie? On lit présentement un livre qui s'intitule « Conduire l'Église » avec David Tripp, ou Paul David Tripp. Et dans ce que je lisais, je préparais le message, puis il y a un bout qu'on a regardé cette semaine, justement, qui me revenait au travers du message, puis je trouvais ça bon de vous le partager. Et il disait à travers ces paroles de ce livre, « Se plaindre des difficultés horizontales, hein, de tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est en même temps se plaindre de celui qui les régit. » Celui qui en est au contrôle. Et c'est là que ça devient fatal, car une vie à se plaindre plus ou moins silencieusement ébranle votre confiance dans la sagesse, la bonté et la fidélité de Dieu. Et plus loin, il écrira ceci, car cela affecte votre confiance, donc votre foi, à la souveraineté du Seigneur qui agit par son esprit. Ouf! Hein? C'est comme une claque, hein? Parfois, on se laisse pas façonner par le Seigneur. On a de la difficulté à ce que le Seigneur vienne changer nos plans, à ce que le Seigneur vienne travailler nos vies d'une façon qui nous déplaît, hein, ou qui va faire mal, ou qui va nous emmener dans des combats, ou ainsi de suite. Et c'est une réaction, je dirais, qui est normale. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de tout ça et dire, moi, quand le Seigneur me reprend, bien, gloire à Dieu. c'est un petit peu difficile à contrôler. Parce que des fois, il y a des situations que le Seigneur, bien, s'y prend d'une manière à ce que ça, comme on dit, on disait il y a des années, c'est comme un gros papier sablé 80, tu sais. C'est pas un 300 là, pour la finition. Là. C'est un 80 qui passe puis qui vient te frotter un peu où ça fait mal puis ça graffigne. Plus que ça adoucit. Mais le but, c'est d'adoucir après. Hein? On sait que toute chose qu'on court bien, ceux qui aiment Dieu, on aime ces passages-là aussi qui viennent nous redonner courage au travers de tout ce qu'on peut vivre et au travers différentes circonstances qui... ou à laquelle on fait face. Nos préoccupations devraient tous nous pousser vers les intérêts et les affections spirituelles, aux choses d'en haut qui nous sont profitables et qui sont profitables au Seigneur. Car vous savez, le sujet que le Seigneur a le plus enseigné est le royaume de Dieu. Tout ce que le Seigneur nous a enseigné nous ramène à cette pensée qui est le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur a mis autant d'emphase là-dessus? Le royaume des cieux est proche. Hein? On le sait. Et encore plus 2000 ans plus tard. Et ainsi de suite. Et nos priorités sont-elles les mêmes que le Seigneur et ceux qui avaient les disciples? Donc, le titre du message ce matin, c'est « Se préoccuper des choses d'en haut ». Et on va aller dans notre texte de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4, épître aux Colossiens, dont Paul nous enseigne, nous exhorte ce matin par ses paroles, en nous disant, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et c'est ce qui arrive lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsque on décide que le Seigneur met dans notre cœur, il nous pousse à lui donner notre vie, à lui faire confiance, à tout lui remettre, bien, c'est ce qui se produit. Nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il va ensuite dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Le jour où le Seigneur va revenir, nous allons paraître avec lui dans la gloire, dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rester ici-bas. Bien, merci Seigneur, sur la terre. Mais dans la gloire. Nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Et j'irai même plus loin que cette gloire, nous pouvons commencer à goûter maintenant. Nous avons les prémices de cette gloire en Jésus-Christ ce matin. Donc, il écrit, et il commence, verset 1, en disant, « Si donc » est traduit ici par la traduction sommaire avec une affirmation qui dit ceci, « Mais vous êtes. » Je trouve ça intéressant d'aller voir, mais je pense que c'est pas mal juste sommaire qui a cette traduction-là. La plupart sont tous traduits de la même façon qu'on le voit dans la seconde 21, où il a dit « Si donc vous êtes ressuscité », mais dans la traduction sommaire, nous dit « Mais vous êtes ressuscité avec Christ. » Car c'est un passage obligé. Si Paul mentionne cela au début, « Vous êtes ressuscité avec Christ », c'est que le reste ne peut être accompli si vous avez commencé par cela, par avoir et vivre en étant ressuscité avec Christ. Est-ce que j'ai une vie de chrétien, de disciple du Seigneur, qui est l'image de quelqu'un qui est ressuscité, ou si j'ai encore cette image de la terre et du monde? En somme, c'est ça que Paul parle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit en moi, qui transparaît et qui paraît qu'il y a eu une transformation, qu'il y a une régénération? Et parfois, bien, on ne se laisse pas travailler comme le Seigneur, lui, le veut. Et on ne réalise pas l'importance et la grandeur, la gloire qui paraît au travers seulement le début de ce texte. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et c'est une belle question, mais si vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que ça change? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Si tu es ressuscité avec Christ, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, dans la droite de Dieu. Et le deuxième point, tu vas t'affectionner aux choses de Dieu où Christ est assis dans la gloire de Dieu. Deux mots très importants, hein? Chercher et s'affectionner. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas longtemps, un pasteur, j'entendais, puis ça m'a, peut-être que c'est de là que le Seigneur m'a inspiré ce message ce matin, mais il semblait dire que personne ne cherche Dieu. Bien, la parole de Dieu nous dit, cherchez Dieu, il se fera trouver, il se laissera trouver. Parfois, on ne s'aperçoit pas qu'on cherche Dieu, mais dans le fond, on cherche Dieu. Pourquoi c'est ça? Parce que de différentes manières, on cherche à connaître des choses ou à s'approcher de ce qui est plus grand que nous. Et Dieu est plus grand que tous. Donc, ça fait partie d'une recherche personnelle profonde de l'âme, hein, de chercher Dieu. C'est incontournable. Un jour ou l'autre dans notre vie, on a eu une pensée pour « Y a-tu vraiment quelque chose? Y a-tu vraiment quelqu'un? Y a-tu quelque chose après la mort? Y a-tu quelqu'un qui règne sur toutes ces choses? » Et il n'y a rien que Dieu n'ait pas en contrôle. Et c'est pour ça que je commençais avec cette pensée de Paul Tripp tantôt. Il n'y a rien dont Dieu n'est pas en contrôle. Dieu est en contrôle de tout. Même du plus petit insecte qui va nourrir un plus gros, et lui un plus gros, et lui un plus gros, et ainsi de suite. Dieu est en contrôle autant de les astres célestes que de tout ce qu'on peut voir de très petit sur la terre. Parce que tout sert à quelque chose pour Dieu. Et il a tout fait, tout créé, pour sa gloire. Et c'est pour ça, dans les psaumes, qu'on peut lire que toute la terre, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres des champs frappent des mains. Non? Là, même les arbres poussent en levant les branches vers le ciel. Et ça, quand je pense à ça, ça m'épate. Comment est-ce que Dieu a pensé même aux petits détails? Tout s'élève vers la gloire, vers la lumière, comme nous devons nous élever vers la lumière, qui est Christ. Tout s'élève vers la gloire de Dieu. Et ce matin, n'ayez pas peur de louer le Seigneur en levant les mains. C'est normal. Parce que tout s'élève devant la grandeur de Dieu. Tout se lève et Dieu pourvoit et garde toutes choses. La résurrection que Paul parle ici n'est pas quelque chose qui est à venir après notre mort. Hein, parfois, certains vont dire, « Ouais, mais là, Paul, il parle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça, c'est quelque chose qui va arriver après ma mort. Là, c'est sûr que je vais ressusciter. » Mais Jésus ne parlait pas de cette mort-là. Il parlait d'une transformation de cœur, du cœur. Et on voit dans Colossiens chapitre 2, verset 12, hein, un chapitre avant où ce que Paul disait, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. » Comment? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, même aujourd'hui, maintenant, il est possible de ressusciter. D'avoir cette transformation dans notre vie, dans notre être et dans notre cœur. On n'a pas besoin d'attendre la mort. Et 1 Jean chapitre 5, 1er épître de Jean chapitre 5, verset 13, nous dira, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aurez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est pas ça qu'on lit? C'est pas ça qu'on lit? Que vous avez. Hein? Jean nous dit ici, Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez la foi en Jésus-Christ, vous l'avez, la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Mais c'est quelque chose qui est déjà là, vivant en nous, dans notre être, par la résurrection. Par la résurrection et la transformation de l'être intérieur. La foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité son Fils nous assure aujourd'hui et maintenant la vie éternelle. Car de même que pour le Fils, nous aussi avons été ressuscités et régénérés, reçus une vie nouvelle. Car avec lui et en lui, c'est avec lui et en lui que nous pouvons avoir une pleine et profonde conviction. Amen. Que cela est vrai et réel. S'il y a encore des chrétiens ce matin sur la terre qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé. J'ai pas entendu d'amen, mais... Non? Sinon, on pourrait rester dans notre lit puis profiter de la vie. On pourrait rester effoiré puis évaché, hein? Des heures puis des heures, puis ne pas se soucier de Dieu. Mais si on est là ce matin, c'est parce que le Seigneur a mis en nous la foi. C'est lui qui l'a placé en nous. Et cette foi nous fait en nous qu'on le recherche et qu'on s'affectionne à lui. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais c'est quelque chose qu'on doit chercher. Quelque chose qu'on doit s'affectionner, les choses de Dieu. Cette profonde conviction de foi avec l'effet... je vais recommencer. Cette profonde conviction de foi a l'effet d'amener le croyant à chercher et à s'affectionner à Dieu et aux choses et à la gloire d'en haut, à la puissance de son esprit qui vit maintenant par le renouvellement de nos pensées. De cette vie nouvelle aussi que le Seigneur met en nous. Dans un commentaire biblique, le premier verset suit avec deux actions. Chercher, ce qui nous indique une action continue et qui concerne nos préoccupations des réalités éternelles. Ensuite, de s'affectionner, qui comporte une profondeur, de se revêtir, d'ajuster notre compréhension et nos sentiments à celle de la sagesse d'en haut. Vous savez, c'est comme une balance. C'est un petit peu ça, hein? Lorsqu'on pense à ce qu'on voit à travers ce texte, de balancer notre vie aux choses de Dieu, à ce que lui nous demande, à s'affectionner, à le rechercher, à toujours nourrir cette balance afin que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est un travail. Mais un travail que l'Esprit nous aide à accomplir et à faire. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls et nous a envoyé le Consolateur. Le contexte de chercher, bien sûrement, Paul a sûrement été inspiré de ces paroles du Seigneur lorsqu'il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Vous voyez la ressemblance ici des textes où ce que Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. Nous, on aimerait mettre la fin du verset au début. On veut tout avoir avant de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Hein, c'est un, il me semble que ça ferait notre affaire. Elle dit, moi, je veux tout avoir de Dieu, mais que je l'aie, là, je vais commencer à chercher premièrement le royaume. Seigneur répond avec puissance, puis après ça, je vais le chercher. Seigneur, agis dans ma vie parce que là, ça va mal. Puis après ça, ben, tu vas m'avoir montré que là, c'est vrai. Fait que là, je vais aller vers toi. Le Seigneur, il ne marche pas comme ça. Commence par faire le pas de foi de chercher le royaume de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Hein? C'est quoi la justice de Dieu? C'est ses commandements qui se rattachent au salut. Donc, le salut n'est pas la fin, c'est le début, le commencement. Chercher premièrement le royaume, c'est chercher le Seigneur, mais ensuite la justice vient avec. Les enseignements, tout ce qu'il a à nous donner et à nous dire. Et après ça, le Seigneur va accomplir ses promesses dans ta vie. Pas compliqué, hein? Nous retrouvons dans l'Épître aux Romains l'une des raisons pour laquelle nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Et on voit dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36, qui a été inspiré, hein, je dirais, des pensées du psaume 36, 7, Ésaïe 40, 13, Job 41, 2 et Proverbe 16, 4. Pour ceux qui prennent des notes, puis ainsi de suite, vous réécouterez le message sur YouTube. Mais vous avez ces références aussi en bas de page dans votre Bible qui amènent des fois un peu plus de compréhension par rapport au texte. Donc, Paul, il parle ici dans Romains chapitre 13, versets 33 à 36, il parle ici d'aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. » Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Amen. Nous voyons que la préoccupation de Jésus qu'on a vu tantôt, comme celle de Paul, était que la foi de chaque croyant soit conduite et dirigée par la recherche et la connaissance de Dieu. Et je dirais même que cette recherche doit toujours avoir une continuité dans notre vie. C'est quelque chose qu'on doit toujours rechercher et s'affectionner, la pensée de Dieu. Quelque chose qui se régénère, quelque chose qui grandit et à laquelle on s'instruit. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 13 à 16, il nous a dit aussi que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est venu lorsque j'ai accepté le Seigneur. Ouf! Hein? Il y a eu un éveil qui s'est fait dans ma tête, dans mon cœur, mon esprit, puis bang! Je connais Dieu. Non, c'est quelque chose qui grandit, qui doit prendre d'expansion. Il dit ici, afin et à l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est ça le but de l'Esprit de Dieu en nous, en ceux qui ont placé leur foi en Jésus. De nous amener à la stature et la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité et dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Même si je grandis ce matin, bien Christ demeure mon chef. Même si la connaissance de Dieu grandit, puis que je m'affectionne, puis que je m'approche de Dieu, puis que je connais Dieu, Christ demeure le chef. Il sera toujours le chef, puisque c'est lui le Messie, celui qui a tout accompli. Et verset 16 nous dira aussi, car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. C'est le Seigneur qui le fait en nous. C'est lui qui nous donne de le chercher et de s'affectionner, et c'est lui qui nous nourrit dans notre recherche et dans nos affections. C'est lui qui vient et nous fait croître selon la force qui convient à chacune de ses parties, à chacun de nous. Et il s'édifie lui-même dans l'amour. Tout se fait dans l'amour, dans la charité. Moi, j'aime ces passages. Parce que c'est ce qui nous définit, enfants de Dieu. C'est ce qui nous définit comme enfants de Dieu. L'amour que le Seigneur a mis en nous. Mais plus que l'amour, son amour. Son amour à lui, qu'il vient déposer dans notre cœur afin qu'on croisse, qu'on grandisse. Et c'est l'amour de Dieu en nous qui nous unit ensemble, frères et sœurs, dans la vérité et la charité. C'est à cause de son action. Et c'est par sa force à lui, que ces changements se font. Le Seigneur transforme mon cœur, transforme ma vie. Amène-moi, Seigneur, dans la foi, à grandir dans la foi, à grandir dans la recherche de toi, Seigneur. Enseigne-moi à m'affectionner, Seigneur, aux choses en haut. Et c'est ça la pensée du message ce matin. Amène-moi, Seigneur, à te chercher davantage, à ne pas te négliger dans chacun des aspects de ma vie. Ces choses d'en haut sont tous des recherches personnelles qui touchent la pureté et la vie céleste du croyant, et particulièrement les valeurs spirituelles qui caractérisent la personne de Christ dans la vie de ses rachetés, comme la tendresse, la bonté, la douceur, la patience, la sagesse, le pardon, la force, la pureté et l'amour. Et on voit ces textes un petit peu plus loin dans le troisième chapitre de Colossiens, pour ceux qui veulent lire tout le contexte de ce qu'on voit ce matin. Paul va le décrire par la suite, ces choses. Tout comme on voit aussi dans la manifestation de l'Esprit dans notre vie, qu'on voit dans Galates chapitre 5, versets 22 à 25, qui nous parle d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénédiction, de fidélité, de la douceur, de tempérance. Hein? Ça fait beaucoup de choses. Et je parlais avec un frère hier, puis qui me partageait, il dit, et tu sais, il dit, je n'étais pas comme ça avant. Mais il dit, quand je suis venu au Seigneur, c'est venu changer ma perspective de qui je dois paraître, qui je parais. Hein, parfois, on veut paraître des gros bras, puis la grosse bessique, puis la grosse affaire. Et c'est ça qu'il me disait. Il dit, moi, il dit, je témoigne aujourd'hui que le Seigneur est venu transformer ça. Il est venu adoucir mon cœur et que maintenant, je vis pour Christ. Je ne vis plus pour paraître, mais même si je parais, c'est pas ça que je vis en dedans. Parfois, c'est un moyen d'approcher, de paraître. Paul disait, je me suis fait tout à tous. Parfois, c'est un moyen d'aller toucher ceux qui paraissent tough, hein, que le Seigneur va se servir. Et autant qu'une autre personne que par sa douceur, par sa... Juste... Comment est-ce que je ferais dire ça? Juste sa simplicité peut toucher les cœurs des gens. Le Seigneur se sert de toutes sortes de manières pour amener à lui, pour transformer les vies, pour toucher les cœurs. Qu'importe, le Seigneur, lui, sait comment. Il sait comment. Et verset 25 de Galates 5 nous dira, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et il y a un mot très important ici. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit qui nous a ressuscités, sanctifiés et purifiés en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais le petit mot ici, c'est selon. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon. Qui amène quoi? Selon lui. Pas selon ce que moi je pense, qui est bon, qui est correct devant Dieu. Je dois marcher selon ses exigences à lui. Et c'est ce que l'Esprit vient faire dans notre vie lorsqu'il vient nous transformer. Il nous apprend à marcher selon lui. Et non selon ce que moi je crois, ce que je pense, ce que je devrais peut-être. Il n'y a plus de peut-être. Parce que la vérité demeure la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Et Dieu ne change pas. Il n'y a aucun point de lettre qui ne change en lui. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Et c'est pour ça qu'on peut placer notre foi et notre confiance en lui. Paul poursuivra dans l'Épître, chapitre 3 de Colossiens qu'on est en train de regarder, en disant « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Et la traduction sommaire nous dira de tout votre ou vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut. C'est intéressant. Comment est-ce que la traduction sommaire, j'aime me servir de la traduction sommaire parce qu'elle est plus proche des textes grecs dans le Nouveau Testament. Et ici, ça nous dit de tendre vers les réalités d'en haut. Vous savez, si je m'étire pas, là, puis qu'il y a de quoi en haut de l'étagère, je ne l'atteindrai jamais. Des fois, il faut s'étirer pour aller chercher la gloire de Dieu, aller chercher la présence de Dieu, aller chercher la bénédiction de Dieu. Je dois m'étirer. Au lieu de rester en petite boule dans mon coin, dans le coin du salon, puis me morfondre. Il y a des vérités, des choses que Dieu nous montre qu'on peut aller chercher. Qu'on peut tendre vers. Et Français Courant dira, nous parlera de se préoccuper des choses d'en haut. Est-ce que c'est une préoccupation? On tend vers les choses de Dieu, mais est-ce que c'est une préoccupation? Est-ce qu'on s'en fait pour les choses de Dieu? Une belle question. S'affectionner, dans une signification générale, nous parle de ce qui vient nous chercher. Est-ce que lorsqu'on parle des choses de Dieu, ça vient nous chercher? Est-ce que ça vient nous interpeller? Est-ce que ça nous affecte intérieurement dans notre âme, dans notre cœur? Est-ce qu'on y trouve des affinités, un amour, une attache, un but, une bénédiction, un cœur, une complaisance? Ça nous parle d'une estime, de goût, d'intérêt, d'une préoccupation et même d'une passion qui amène une union. Est-ce que les compassions du Seigneur t'amènent à vouloir avoir cette union avec lui, cette relation avec lui? Toutes sortes de sentiments qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu en nous et dans la vie des autres. De même que parfois, je dirais, on rencontre des personnes qui disent « Moi, je suis chrétien, puis il n'y a pas grand-chose qui démontre la présence et l'Esprit de Dieu dans sa vie, cette transformation-là. » Alors, qu'est-ce qu'on se dit à ce temps-là? Seigneur connaît son cœur. Hein? On ne juge pas. On dit, Seigneur connaît son cœur. Seigneur, mets ta main. Révèle-toi à lui. Je pense qu'il y a des choses que Seigneur fait grandir sa foi. Pour nous, en ayant cette disposition intérieure de cœur dans les choses d'en haut, nous ne recherchons pas seulement le ciel physique. Mais nous cherchons ou recherchons aussi à connaître et à vivre pour celui qui vit et règne dans la présence de Dieu. D'avoir une relation personnelle avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y en a qui ils s'arrêtent à dire « Ah, je verrai pour le ciel quand je serai rendu là. » C'est comme juste quelque chose de physique qu'un jour, peut-être, qu'on va voir qu'on va vivre à l'intérieur ou ainsi de suite. Mais la pensée de Paul nous amène plus loin parce que l'affection amène un côté plus personnel, comme je disais tantôt, qui est plus relationnel. Quelqu'un disait un jour, je ne peux pas m'attendre à entrer dans la présence de Dieu si je n'ai rien voulu savoir ou je me suis foutu de Dieu toute ma vie. Hein? Il y a du vrai là-dedans. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à la présence de Dieu et la gloire de Dieu si on n'a rien voulu savoir de lui toute notre vie. Au contraire, Paul nous parle de s'affectionner, de chercher les choses de Dieu, à s'approcher de lui, à vivre conformément à ce que lui nous enseigne. Et ce ne sont pas des commandements pénibles que le Seigneur nous demande, mais une vie vraie et réelle de relation. Et si j'ai vécu cette relation avec le Seigneur en étant dans mon corps, waouh! Quelle gloire va y avoir lorsqu'on va être en présence de Dieu tantôt. On a les prémices, comme je disais tantôt, de la présence de Dieu, de la révélation de Dieu, de sa présence. Parfois, il y en a qui chantent, dans la présence de Dieu, qui s'approchent du Seigneur. Mais ce ne sont que des prémices, frères et sœurs. Ça va être dans la gloire. Moi, quand je pense à être dans la présence du Seigneur, juste la présence de Dieu, ça devrait suffire à vouloir s'affectionner, vouloir s'approcher de lui, avoir cette relation avec lui. Sachant que des millions d'anges chantent autour du trône, en plus des vieillards et des êtres vivants. Comment ça va être beau lorsqu'on va être dans sa présence pour louer ensemble. Donc, je pourrais dire que la disposition du cœur du croyant devrait pointer toujours vers le ciel, vers le vertical, et non vers l'horizontal, vers les choses de la terre. Où le Christ Jésus est assis à la droite de Dieu, qu'il nous aime et intercède pour nous. Et on voit ces passages dans Romains chapitre 8, verset 34, où il nous a dit « Qui les condamnera en parlant de ses élus, de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ? » Il dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. » Et c'est pas tout, il intercède pour nous. Il intercède en notre faveur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il intercède dans notre faveur? Hein? Faveur? Saveur? La saveur de la gloire de Dieu. Ouais, goûtez comment l'Éternel est bon. Intercède. Il intercède pour nous, ça veut dire qu'il parle pour nous autres. Il plaide à notre cause. Il est notre juste juge dans la présence de Dieu. C'est pas rien, hein? C'est le Fils qui est assis à la droite de Dieu qui parle pour nous à son Père, à Dieu. Et 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, nous dira, en parlant de Jésus, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Il a tout pouvoir, puis intercède pour nous autres. Il n'y a rien que, je disais tantôt, hein, il n'y a rien qui n'est sous son contrôle. Il est en contrôle de tout. Et il n'y a aucune autorité qui peut venir contre nous. Il n'y a aucune puissance qui peut venir contre nous, parce qu'il a la toute-puissance et l'autorité sur tout. On peut lui faire confiance ce matin. Et il nous a dit aussi, car la grâce de Dieu qui a exercé envers nous, frères et sœurs, n'a pas contribué à chercher et à s'affectionner aux choses de la terre. Tout ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour qu'on s'affectionne, on s'affectionne. Hein? On s'affectionne aux choses de la terre. Car nous sommes tous morts avec lui. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Là, ça termine bien. Ça, c'est la fin pour tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui, qui sont cherchés à connaître le Seigneur, qui sont affectionnés aux choses d'en haut. Affectionnés aux choses d'en haut et s'attacher aux choses d'en haut. C'est ça ce matin. Nos priorités doivent donc tous être dirigées vers les choses du royaume de Dieu, vers Jésus et la présence de Dieu dans notre vie. Nos rassemblements, notre vie personnelle, ouais, c'est ça que j'avais écrit, notre vie, nos rassemblements et à l'Église, car sa parole et ses promesses sont une priorité à cause que Jésus est ressuscité pour nous. À lui la gloire ce matin. À lui la gloire. On peut lui faire confiance, qu'importe les circonstances. Des fois, ça nous échappe, hein? On se dit, pourquoi c'est si dur? Pourquoi je suis rendu là? Pourquoi que c'est ci, c'est ça? Seigneur a un plan. Un plan que nous, on ne voit pas. Ça serait le fun, des fois, de tout connaître, hein? De tout savoir. Il me semble que ça l'apaiserait, la transition entre le aujourd'hui et le demain. Mais faisons confiance au Seigneur. Continuons à rechercher. Rechercher les choses d'en haut. Continuons à s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Parce que c'est là qu'on va trouver notre réconfort. C'est là qu'on va retrouver notre confiance. C'est là qu'on va retrouver la force dont on a besoin pour passer au travers. Toutes ces circonstances, hein, à laquelle on peut faire face. Donc, je suis assez vague, hein? Mais ça englobe tout. Parce que notre Dieu est grand et puissant. Notre Dieu est grand et puissant ce matin. Il veut qu'on s'approche de lui et il s'approchera de nous. Et c'est ce qui nous amène ce matin à la table du Seigneur. Dans cette pensée, les affections, nous affectionner. On peut s'affectionner à différentes et à plusieurs choses, mais il n'y a rien qui peut transformer comme la présence et l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut faire grandir, qui peut faire une différence dans notre vie comme celle de l'Esprit de Dieu à notre vie. C'est la présence du Seigneur qui vient tout changer. Donc, ce matin, on va aller à la table et on doit avoir un chant. Puis je vais demander à Nelson, si tu veux passer, Christian, si vous pouvez passer les éléments pendant qu'on va chanter le cantique. Excusez, juste une chose. Dans les éléments ce matin, on a deux parce qu'on a reçu, Thérésa nous a amené les petits